Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette 59e collégiale de la FEN. 59 collégiales avec une spécificité, c'est qu'aujourd'hui, cette collégiale, bien sûr, comme toutes les collégiales, sont disponibles sur YouTube, mais aujourd'hui, elles seront disponibles aussi sur format radio. Et donc, en podcast, nous aurons la possibilité de suivre les collégiales de cette année avec cette radio qui a été lancée. Donc, je vous invite à le suivre, à aller sur iTunes pour mettre des étoiles et de façon à vous exprimer et tous les sujets que vous avez envie de traiter, toutes les remarques que vous avez, ben, dans ces cas-là, on les relaiera à notre invité. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Rémi Chal, qui est directeur général de EdTech France. Et donc, on va pouvoir lui poser toutes les questions qu'on a envie de lui poser. Et pour ça, on a Isabelle Muller. Isabelle, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Rémi Chal. Donc, encore merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous êtes donc directeur général de l'EdTech France depuis quelques mois, je crois, depuis fin d'année 2018.
Oui.
Et voilà, donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de l'objectif de l'EdTech France, de son origine, voilà, de son positionnement ?
D'abord, bonjour Isabelle, bonjour Stéphane, merci d'avoir pensé à moi et à EdTech France pour cette collégiale. Je suis ravi d'y participer aujourd'hui. J'espère que ça va être un moment d'échange où on va pouvoir tout se dire parce qu'il n'y a pas de, il y a aucune question taboue. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage les choses. Alors, EdTech France, j'y suis arrivé un peu par hasard, pour vous dire la vérité, parce que moi, je viens d'un autre monde, d'un monde parallèle. Je viens d'enseignement supérieur où j'ai passé 20 ans comme formateur, comme professeur. J'étais professeur de droit à mes débuts. Et puis, de fil en aiguille, j'ai acquis des responsabilités qui m'ont amené à diriger une grande école de management. J'ai quitté ce monde au mois de juillet dernier. Et je ne connaissais pas grand-chose de l'high-tech, en réalité, parce que c'est un univers et un mot qui n'est apparu dans mon champ de vision que très récemment, grâce notamment aux travaux d'Educ Pro à l'époque, qui a commencé à parler de l'high-tech. Et pour autant, j'avais la conviction que ces solutions innovantes, elles doivent nécessairement arriver dans les établissements d'enseignement supérieur et de manière plus générale dans le monde de la formation et de l'apprentissage. Aujourd'hui, elle reste à la périphérie de l'expérience d'apprentissage. On est davantage dans le service à l'étudiant ou à la communauté éducative. Mais je crois que fondamentalement, il faut transformer aujourd'hui l'expérience d'apprenant. On y reviendra, j'imagine, mais l'apprenant d'aujourd'hui n'est pas l'apprenant d'hier. Les travaux des sciences cognitives permettent de mieux comprendre comment fonctionne un cerveau humain et donc de mieux adapter les apprentissages. Et puis surtout, quand je faisais un cours, moi, il y a un certain nombre d'années, je faisais descendre des connaissances, lesquelles connaissances sont aujourd'hui accessibles partout et par tout le monde et tout le temps. Donc, il y a un vrai sujet autour de la formation et de l'apprentissage. Et c'est pour ça que ça m'a passionné de participer à ce mouvement qui est porté par EdTech France. Alors, EdTech France a été créé il y a à peu près un an à l'initiative d'entrepreneurs de ce qu'on appelle la EdTech. EdTech, c'est Education and Technology. Pour faire simple, ce sont tous les entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. J'ai coutume de dire de la maternelle à l'EHPAD, c'est-à-dire que ça concerne aussi bien le secteur scolaire, l'enseignement supérieur, et puis la formation toute la vie, la formation professionnelle, la formation continue, etc. Donc ces entrepreneurs, il y a à peu près un an et demi, à la suite d'une initiative qui était celle de l'Observatoire EdTech, se sont dit « mais on n'est pas représenté, on est une filière, on est un écosystème qui est en train de naître, qui est bouillonnant. Il y a aujourd'hui plus de 400 entreprises ou startups qui sont référencées sur ce fameux observatoire. Et pour autant, notre voix n'est pas portée. Et à l'inverse, on avait d'autres écosystèmes avec lesquels la filière EdTech communique, que ce soit la RH, que ce soit l'enseignement supérieur, que ce soit des institutions, qui n'avaient pas d'interlocuteur dédié pour s'adresser à cette filière EdTech française qui, encore une fois, est en train de se développer. Donc, l'idée a été de se fédérer. Il y a une initiative qui a été lancée, il y a un manifeste qui est en ligne encore aujourd'hui. Et puis, évidemment, il ne s'est pas passé grand-chose parce que quand on est entrepreneur soi-même, on n'a pas nécessairement beaucoup de temps à consacrer à une association. Et il fallait un permanent, voilà, tout simplement. Et c'est moi qui suis arrivé au mois de novembre dernier, c'est encore très récent, pour fédérer, animer, développer, communiquer, acculturer au-delà de notre écosystème à ce qu'est la EdTech en France aujourd'hui et puis dans le monde. Aussi ouvrir les marchés, bien sûr, aller à l'international. Enfin, il y a 100 chantiers qui sont tous autant passionnants les uns que les autres, et j'imagine qu'on va parler d'un certain nombre d'entre eux. Voilà.
Alors, qu'est-ce que peut attendre une entreprise aujourd'hui qui adhère à l'EdTech France?
Alors, on a aujourd'hui un petit peu plus d'une soixantaine d'adhérents, sachant qu'en ce moment, on est sur un rythme de 5-6 adhésions par semaine, ce qui est plutôt très bien. Maintenant, le but, ce n'est pas simplement de collectionner des adhérents. Il est évident que plus on sera nombreux, plus on sera fort et plus on sera audible. Ça, c'est une certitude. Mais il faut qu'il y ait une vraie aussi proposition de valeur pour ceux qui adhèrent à EdTech France. Et encore une fois, ce sont des entrepreneurs. Donc, ils sont dans une logique de ROI. Si j'adhère, qu'est-ce que j'ai en échange? Et leur dire simplement qu'on va faire du lobbying, qu'on va porter la voix de la EdTech française, et qu'on, c'est important, mais c'est d'une part pas tout à fait suffisant. Et puis d'autre part, il n'y a pas de retour visible. Je crois qu'ils ont besoin d'avoir des retours visibles. Et quand on est entrepreneur, le meilleur retour visible qu'on puisse avoir, c'est un nouveau contrat, hein, pour être très clair. Donc, l'idée, c'est pour eux, d'abord, d'apprendre à se connaître les uns les autres. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a 400 entreprises à peu près. 80% d'entre elles sont en région parisienne, mais ça veut dire accessoirement qu'il y en a 20% d'entre elles qui ne sont pas en région parisienne. Il ne faut pas les oublier, évidemment. Ce n'est pas une association parisienne, Tech France, c'est une association nationale. Et on a l'ambition d'aller dans les régions pour rapprocher aussi les utilisateurs des entreprises. Mais cet écosystème, il est composé de beaucoup de petites entreprises qui ne se connaissent pas les unes entre elles, qui parfois proposent des solutions qui peuvent être concurrentes, mais qui peuvent aussi être complémentaires. Et je crois qu'il y a un besoin aussi de consolidation. Donc, une des premières propositions que fait Tech France, c'est celle de networker, c'est celle de se rencontrer, c'est celle de se connaître. Donc, il y a des événements mensuels internes à l'association, il y a des canaux de communication internes à l'association, etc., pour que les entrepreneurs, dans un premier temps, entre eux, se rencontrent, fassent connaissance, et puis peut-être travaillent ensemble. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a.
Sur ce premier chantier, est-ce que les rencontres sont qu'en présentiel ou est-ce qu'il y a des rencontres numériques ou des événements de ce type?
Il y a les deux, parce que moi, je crois évidemment au numérique, au digital. Enfin, sinon, la tech n'aurait aucun sens. Mais je crois aussi et surtout à l'humain. Je crois que les deux sont absolument indissociables. Donc, il y a des rencontres physique, une fois par mois, il y a un conseil d'administration, il y a ce qu'on appelle l'apéro EdTech France, où viennent ceux qui peuvent venir. On a entre 30 et 40 membres présents, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas nécessairement suffisant, notamment pour ceux qui sont éloignés. C'est sûr qu'on a des membres qui sont à La Rochelle, on a des membres qui sont à Pau, on a des membres qui sont à Lyon, on a des membres qui sont à Lille. C'est difficile pour eux de venir à Paris uniquement pour l'apéro. S'ils sont là, tant mieux, mais s'ils ne sont pas là, c'est compliqué de faire les tours pour ça. Donc, il y a des temps de rencontre aussi tout au long de l'année qui se font via des outils type Slack, par exemple, des outils collaboratifs, participatifs, où il y a des canaux généraux et puis où tout le monde communique, où on envoie quotidiennement les informations concernant à la fois la filière ou concernant l'actualité de tel ou tel membre. Et puis, il se crée des canaux parallèles où des membres entre eux vont échanger sur un sujet qui les concerne principalement. Parce qu'une des particularités de l'high-tech, c'est qu'elle recouvre des marchés qui sont très différents. Il y a peu de liens entre le scolaire et la formation continue. On est dans une question d'apprentissage, bien entendu. Et on pourrait se dire qu'un enfant de 6 ans comme un adulte de 45 ans a les mêmes besoins. C'est pas complètement faux. Mais pour autant, ce sont des marchés différents et des interlocuteurs différents, des solutions différentes, des problématiques différentes. Et donc, ils ont aussi parfois intérêt, ces entrepreneurs, à parler entre eux des sujets qui les concernent principalement. Voilà. Donc ça, c'est ma première proposition, c'est d'abord de se rencontrer, de se fédérer, parce que je crois fondamentalement que c'est un marché, pardon, qui a besoin de se consolider. Alors que c'est peut-être qu'il ne faudrait pas avoir 400 acteurs, peut-être qu'il en faudrait que 250, mais qu'ils soient un peu plus solides, si j'ose dire. Parce que beaucoup de ces entreprises sont de petites entreprises, jeunes, avec moins de 4 salariés, qui font moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je crois, un besoin de consolidation, et la consolidation, elle passera d'abord par la rencontre et par l'échange. Première chose. La deuxième chose, c'est de clarifier l'offre EdTech. C'est quoi la EdTech? C'est quoi les solutions qui sont proposées? Parce que quand on est potentiellement acheteur, ce que j'étais moi en tant que directeur d'école, souvent ce qui freine l'acte d'achat, c'est le manque de lisibilité. Donc il y a une nécessité de rendre lisible l'offre via le site EdTech France, via un catalogue qu'on est en train de construire aussi, qui permettra de chercher les entreprises, non pas simplement par leur nom ou leur logo, mais par les solutions qu'elles proposent, par les services qu'elles rendent, par les besoins auxquels elles répondent. Et il faut se faire, encore une fois, on croit beaucoup à l'humain, se rencontrer l'offre et la demande. Et c'est la raison pour laquelle, au sein d'EdTech France, au-delà des membres entreprises, start-up de l'high-tech, eh bien, on fait adhérer aujourd'hui, en tant que partenaire, des grandes écoles, des universités, des collectivités, des grandes entreprises qui ont un intérêt particulier pour l'éducation, qui sont elles-mêmes acheteuses de solutions pour former leurs collaborateurs, parce qu'il y a des grands enjeux de transformation numérique, etc. Donc l'idée, c'est aussi d'organiser des rencontres physiques entre l'offre et la demande pour que EdTech France devienne aussi un hub professionnel, c'est-à-dire un lieu de rencontre, un lieu de confiance où on va pouvoir se rencontrer, où les entreprises vont pouvoir pitcher, comme on dit, leurs solutions, et où les acheteurs potentiels vont aussi pouvoir exprimer leurs besoins. Ce n'est pas toujours évident de connaître le besoin du client, de savoir quel est le besoin d'une école, le besoin d'une collectivité ou le besoin d'une grande entreprise. Donc, voilà quels sont les besoins.
EdTech France deviendrait une place de marché si on identifie à peu près toutes les offres, et puis finalement, c'est le supermarché de la formation.
Alors, l'idée n'est pas de devenir véritablement une marketplace, encore une fois, mais d'une certaine manière, pourquoi pas pourquoi ne pas cataloguer d'une certaine manière les solutions innovantes proposées par les startups d'EdTech France pour rendre plus lisible l'écosystème. Voilà, ça fait partie des sujets. En tout cas, c'est une ambition. C'est évidemment pas la seule, parce que ça serait très réducteur quant au rôle de l'association. Mais pour autant, cette lisibilité peut passer par une déclinaison du site qui pourrait ressembler à une marketplace. Sauf qu'il n'y aura pas d'achat qui se fera sur le site. Mais simplement, voilà, je suis une collectivité, je suis une entreprise, je suis une université. J'ai besoin d'une solution qui réponde à tel besoin. Sur le site EdTech France, peut-être que ça peut être une porte d'entrée pour arriver à l'entreprise qui pourra répondre à mon besoin.
Alors justement, quelle est la différence entre l'EdTech France et par exemple France Apprenante ou l'Observatoire ? Comment l'EdTech France se différencie ?
Une des difficultés de cet écosystème, et j'ai encore un regard relativement profane, puisque encore une fois, il y a 3 mois, je n'étais pas là, c'est qu'il ressemble un peu à un millefeuille. Il y a un millefeuille d'associations, il y a un millefeuille d'acronymes, il y a un millefeuille de think tank, il y a un millefeuille de do tank, etc. Ce qui fait que ce n'est pas toujours simple de saisir le bon bout pour savoir, quand on veut s'adresser à cet écosystème, par quelle porte rentrer. Donc, un des objectifs de EdTech France, c'est aussi d'apparaître demain comme un guichet unique, c'est-à-dire la porte d'entrée de la EdTech. Je suis une start-up, je veux que ma voix soit portée, elle est portée par EdTech France. J'ai des questions, j'ai envie de connaître cet écosystème, j'ai envie de m'adresser à l'ensemble des start-up, je passe par EdTech France. Okay. Il y a cette idée de se poser comme un guichet unique, et un guichet unique de la filière EdTech. France Apprenante a un rôle un peu différent. France Apprenante ne représente pas des entrepreneurs. On est davantage dans le think tank que dans la représentation d'un écosystème entrepreneurial. Ça veut dire aussi qu'on va travailler avec France Apprenante, comme on travaille avec la French Tech. C'est encore quelque chose de très différent. Comme on travaille avec la FINEF, qui est une autre association représentative de l'écosystème. Comme on travaille avec la FEN, parce qu'on a, bien sûr, et nous sommes partenaires, je le rappelle, de la FEN, parce que, évidemment, les formateurs, c'est un enjeu pour nous, c'est un enjeu important. Moi, je crois beaucoup à la formation des formateurs, notamment pour susciter l'intérêt pour les solutions innovantes.
Et comme on parlait d'écosystème, effectivement, la FEN, ce sont les responsables de formation, un peu plus de 5 000 aujourd'hui, et donc ça permet de se dire ce sont les acheteurs. Donc ça veut dire que s'il y a l'offre qui est structurée et visible comme une vitrine, le fait de ça permettrait par exemple aux acheteurs de savoir comment aborder le sujet de la tech, qui est une grosse problématique qu'on abordera plus tard dans le débat.
Et un des enjeux, on en parlera peut-être, mais que ce soit à l'école primaire ou que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans les entreprises, un des vrais enjeux, c'est la résistance parfois. La résistance à la high-tech, à l'innovation, souvent par méconnaissance, par crainte, par peur, par appréhension. Parce qu'il y a un discours aussi parfois qui peut être un peu ambigu. Hein. La technologie pour la technologie n'a aucune espèce d'intérêt. La technologie au service d'autre chose devient intéressante. Et je crois que pour faire se dissiper ces peurs, cette appréhension, il faut d'abord expliquer, accompagner, avoir des formateurs, des utilisateurs qui soient dans une position de co-construire des solutions, pourquoi pas, d'exprimer leurs besoins, de voir comment des solutions innovantes peuvent y répondre, etc. Je crois qu'on a une vraie mission aussi, nous, d'accompagner tout le monde. On ne peut pas imposer et je le sais pour avoir été professeur. On ne peut pas imposer à un professeur une méthode, on ne peut pas imposer à un professeur un ouvrage, on peut pas, ça s'appelle la liberté pédagogique, et on ne peut pas lui imposer de changer sa façon de transmettre les connaissances. En revanche, on peut lui montrer comment est-ce qu'il peut faire. On peut lui montrer que le temps qu'il passe à faire l'appel, ou le temps qu'il passe à distribuer des documents, ou le temps qu'il passe à faire cours, tout simplement, peut être utilisé différemment. Et c'est peut-être plus intelligent, ou en tout cas plus intéressant, en tout cas plus productif, d'avoir je pense à la classe inversée, tout bêtement, d'avoir des apprenants, et là on ne parle pas de EdTech, hein, ce n'est pas la EdTech, la classe inversée, mais d'avoir des apprenants qui arrivent en salle de classe en ayant déjà en tête les éléments théoriques, et d'avoir un échange qui dure 1 heure et demie sur des éléments très pratiques, sur la mise en application, sur l'approfondissement, on va beaucoup plus loin que si on passe 1 heure et demie à donner ces éléments théoriques qui sont accessibles partout. Donc, je crois et c'est un exemple parmi 100, et c'est le plus évident, bon, mais je crois qu'il y a vraiment cette nécessité de comprendre qu'on peut faire autrement, mais pour ça, il faut accompagner. À aucun moment, l'high-tech n'a l'ambition de se passer du professeur. À aucun moment. Je crois qu'on ferait une erreur grave.
C'est aussi tout l'enjeu, parce qu'il y a une vraie problématique avec des startups. C'est le fait de dire, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie des startups qui va disparaître au bout des 3 années, l'écrasante majorité. Et donc, enclencher avec des startups dont on ne sait pas si elles vont demeurer, il y a une vraie résistance à la fois des entreprises, mais aussi dans l'éducation nationale, de se dire, je vais peut-être attendre 4-5 ans pour savoir si elle survit, et si à ce moment-là elle survit, dans ces cas-là, je vais pouvoir travailler. Or, c'est tout un écosystème à construire, c'est le moment où ils sont plus fragiles, qu'il y a des choses à faire.
C'est pour ça que je parlais de consolidation. Hein. Si demain, on a face à soi des entreprises qui sont structurées, qui ont pignon sur rue, il y aura davantage de confiance. Moi, j'ai été un acheteur qui n'achetait pas, souvent, précisément pour cette raison-là, en se disant si je m'engage avec cette boîte que je ne connais pas, peut-être que dans 6 mois, elle a mis la clé sous la porte, et qu'est-ce que je fais avec cette solution que j'ai achetée? Bon. Alors, en même temps, c'est une réflexion d'une telle prudence que c'est avec ce genre de réflexion qu'on tue complètement l'innovation. Hein. C'est-à-dire qu'on ne fait rien en attendant uniquement. Et que finalement, on ne s'engage qu'avec des mastodontes qui sont à peu près toujours les mêmes. Je ne vais pas les citer, mais on les connaît. Bon. Donc, c'est notre responsabilité, justement, d'accompagner, de créer et de donner confiance. De donner confiance. Je suis persuadé que si moi, quand j'étais en position de diriger une école, j'avais rencontré certaines solutions que je découvre aujourd'hui dans un cadre qui était celui, par exemple, d'EdTech France, à l'occasion d'une journée organisée, de rencontres. Je suis persuadé que j'aurais fait confiance à quelques startups. Et que si d'autres, comme moi, avaient fait la même chose, ces startups, elles auraient grandi et peut-être qu'elles n'auraient pas disparu, ou peut-être qu'elles seraient allées un peu plus vite. Quoi. Et vous avez parfaitement raison de le souligner, le temps de la start-up n'est pas le temps de l'administration. Alors, de l'administration publique, j'en parle même pas, mais même de l'administration d'une grande école ou d'une grande entreprise. Donc, il faut concilier effectivement ces deux temps et créer cet esprit de confiance, qui est, à mon avis, la meilleure façon de pouvoir permettre à ces start-up de grandir.
Alors, juste, on sait qu'enfin, à l'échelle internationale, l'EdTech, enfin, ce marché pèserait environ 8 milliards de dollars, avec, on dit, 90% d'investissements qui proviennent de la Chine et des États-Unis. Donc, on a des géants américains comme Google ou Facebook qui veulent se lancer aussi sur ce marché, notamment en France. Comment on peut se protéger un peu de ça, avancer pour les quelques plus de 300 startups françaises dans ce domaine qui souhaitent vraiment évoluer, qui doivent se développer, quels peuvent être le type d'investissement
Vous avez raison, le marché, il est d'abord américain, il est d'abord chinois, il est d'abord indien, avant d'être européen et avant d'être français. C'est des milliards de dollars qui sont investis chaque année dans ces pays. Un exemple concret, l'ensemble des investissements en France l'année dernière, c'est environ, parce que les chiffres sont sujets à controverse, mais à 10 millions d'euros près, c'est environ 150 millions d'euros investis l'année dernière dans l'écosystème EdTech. C'est plus en France qu'en Grande-Bretagne l'année dernière. C'est exceptionnel, mais parce qu'il y a deux arbres cachent une forêt de bonsaï, c'est Klaxoon et Open Classroom qui ont levé chacun à peu près 50 millions d'euros. Si on retire ces deux-là, vous voyez, il ne reste pas grand-chose.
Sachant que la Grande-Bretagne était quand même en avance de la France. Donc, c'est un peu nous qui calons notre retard.
Oui, alors la France est un nain, mais est un grand nain, si j'ose dire. C'est le plus grand des nains, voilà. C'est plutôt encourageant, parce qu'il y a d'autres pays européens, on n'en est évidemment même pas là. Où il n'y a pas cet écosystème avec 400 entreprises, etc. À titre d'exemple, une start-up indienne a investi le mois dernier, ou a levé, pardon, 450 millions de dollars. Une start-up, trois fois plus que l'ensemble des entreprises françaises. Bon. Donc, c'est vous dire que, effectivement, ça va un peu beaucoup plus vite ailleurs. Et que,
Est-ce que c'est mort?
pardon?
Est-ce que c'est mort finalement?
Oh, bah, si c'était mort, on arrêterait tout de
C'est
suite.
ça.
Bien sûr, non, 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 je ne crois pas que ce soit mort, heureusement. Et vous l'avez dit, Isabelle, il y a aussi le rôle des GAFAM, qui n'est pas négligeable, hein. Les Microsoft, Google, Amazon, etc. ont des divisions éducation et sont particulièrement actifs, notamment en France, avec le soutien d'un certain nombre d'institutions, voilà, aussi pour des raisons de confiance. C'est sûr qu'on est certain que Microsoft, dans 2 ans, existera toujours. Donc, une solution peut être de se dire, on va faire appel à cette solution qui est proposée par Microsoft parce que voilà, elle est comme elle est peut-être moins bien qu'une autre, elle est peut-être meilleure d'ailleurs, on ne sait pas, mais au moins c'est clair et je sais que dans 2 ans ça marchera toujours.
Ils
Donc,
sont assez malins parce que quand on voit Microsoft, on citait Klaxoon tout à l'heure, l'accord qu'ils ont avec Klaxoon, c'est que ça permet de profiter de l'innovation de cette entreprise bretonne pour justement lui donner une dimension mondiale. Et donc Klaxoon va pouvoir peut-être grandir plus rapidement.
bien sûr.
Là où en France, il n'y a pas de grands groupes qui tendent la main, quoi.
Moi, je crois qu'il ne faut pas diaboliser les GAFAM sur ce sujet-là et qu'on n'a pas spécialement intérêt à être anti-GAFAM. Ça n'a pas de sens. D'abord, parce que vous voyez, moi j'ai un app qui s'appelle Apple, j'ai un mail qui s'appelle Google. Bon, donc à un moment donné, si on veut être un peu cohérent, on ne peut pas toute la journée dire stop aux GAFAM et utiliser quotidiennement leurs outils dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle. Ça, c'est une première chose. Il y a une forme d'hypocrisie dont il faut peut-être se débarrasser. Ensuite, je ne crois pas que l'ambition des GAFAM soit d'écraser absolument l'innovation qui émanerait des startups. Je crois que comme tous les grands groupes, les GAFAM ou les autres ont besoin de cette innovation. Et cette innovation, souvent, elle se développe en dehors des grands groupes. Donc, je crois qu'il peut y avoir une logique pragmatique et intéressante de collaboration, en réalité. Il ne s'agit pas de se vendre, il s'agit pas non plus d'être anti, il s'agit de travailler avec. Et je crois que les GAFAM peuvent avoir la vertu, comme vous venez de le dire, de porter un certain nombre de jeunes entreprises, de jeunes entrepreneurs, de solutions innovantes, de les faire accéder à un autre marché. Voilà. Donc, encore une fois, les entrepreneurs sont pragmatiques, ne sont pas dogmatiques. Et je trouve qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de dogmes et que les dogmes font assez peu avancer les choses. Voilà. Donc, je crois que cette filière qui est en construction, et les indicateurs le montrent, hein, même si les chiffres d'investissement restent faibles, ils sont des progressions à deux chiffres, hein, ces dernières années. Et ça va continuer. Et il y a des fonds d'investissement qui se sont créés spécifiquement pour la high tech. Et il y a des fonds qui ne sont pas spécifiquement basés sur la high tech, mais qui investissent également dans des startups de la high tech. Donc voilà, je crois qu'on est au début de quelque chose, fondamentalement. Que la France a une vraie carte à jouer, notamment parce qu'il y a un espace, mais celui de la francophonie, qui est peut-être plus facile d'accès pour des entreprises françaises que pour des entreprises chinoises ou américaines. C'est évident qu'on ne va pas demain aller sur le marché chinois, ça risque d'être un peu compliqué, encore que, si le produit est bon, pourquoi pas. Mais l'espace francophone, il est ouvert. En 2050, il y a plus de gens qui parleront français sur cette terre que de gens qui parleront espagnol ou anglais. Donc je crois qu'il y a une vraie carte à jouer et que les quelques années qui arrivent vont être décisives pour savoir si cette filière passe un cap ou ne le passe pas. Et je suis assez confiant, en réalité, heureusement, je dirais, pour que ce cap soit passé.
Alors, est-ce que les Tech France peut justement apporter une aide aux startups sur ces levées de fonds, avoir, je ne sais pas, un partenariat avec le Corporate Venture Capital, par exemple, ces fonds d'investissement un peu dédiés à les Tech? Est-ce qu'on peut imaginer un parcours un peu comme ça?
D'abord, si une... l'idée, c'est de créer ce dialogue, effectivement, avec les fonds d'investissement, de les faire venir, pourquoi pas, comme partenaire d'EdTech France, parce que je trouverais que ça aurait du sens d'avoir à la fois l'offre, la demande et les financeurs. Je pense que là, on aurait un triangle qui serait vertueux. Après, vous dire un truc, c'est si le produit est bon, le fonds n'a pas besoin de nous. Les fonds d'investissement, ils sont suffisamment grands pour être capables d'identifier des opportunités et d'avoir envie d'y investir ou pas. Et s'ils ont envie d'y investir, c'est parce qu'ils y croient. Et ce n'est pas des philanthropes, hein, bien entendu. Donc voilà, à la limite, ils n'ont presque pas besoin de nous, mais Je crois que c'est quand même de notre responsabilité de susciter cet échange et pourquoi pas parfois d'être à l'origine d'un sourcing de solutions innovantes, notamment parce que une des ambitions de Tech France, c'est d'aller dans les territoires. On a lancé l'initiative début du mois de février, qui est un cluster EdTech dans le Grand Ouest. Il existe déjà des clusters, je pense à Éducazur, je pense au cluster Nouvelle-Aquitaine, mais il y a des territoires où il n'y a pas de véritablement d'organisation hein, permettant de fédérer les entreprises de l'high-tech. C'était le cas dans le Grand Ouest, notamment à Rennes, où il y a Klaxoon, dont on a parlé tout à l'heure, mais on a identifié une quarantaine d'autres entreprises de grande taille, plus petites, qui sont sur le secteur de la formation et de l'high-tech. Et donc, on a lancé cette initiative qui a permis de réunir tout le monde en partenariat avec la French Tech Rennes notamment, Rennes-Saint-Malo, où les gens se sont rencontrés. Il y a une deuxième rencontre qui est prévue le 7 mars. Et on va avoir la capacité de déceler dans les territoires peut-être des pépites que les fonds d'investissement n'auraient pas vues parce que leur jumelle ne voit pas assez loin. Donc, je crois qu'on a aussi une responsabilité voilà, de faire émerger aussi d'autres champions français, d'aller chercher là où peut-être les fonds ne vont pas aller chercher, des startups, des solutions. Et je compte aussi, et ça c'est mon passé d'ancien directeur d'école de management, mais je compte aussi sur les grandes écoles de management, sur l'enseignement supérieur en général, mais sur les grandes écoles de management en particulier, pour qui l'innovation est un mot-clé. À la fois parce que ça fait partie de leur ADN, également parce que c'est un moyen dans un univers très concurrentiel de se distinguer. Et les grandes écoles ont un intérêt majeur pour nous, c'est qu'elles maillent absolument tout le territoire. Et qu'à Rennes, par exemple, Rennes School of Business devient un partenaire d'EdTech France, devient un partenaire du cluster. À Lyon, l'EM Lyon est un animateur aussi du cluster Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, avec par ailleurs un accélérateur de start-up EdTech, etc. Je crois que voilà, les grandes écoles, et notamment les grandes écoles de management, peuvent permettre d'asseoir sur le territoire des fédérations de clusters qui ensuite pourront communiquer aussi les uns avec les autres. Et si EdTech France peut être la voix de ces clusters à l'échelle nationale et porter aussi les intérêts de l'ensemble de la filière et de l'ensemble de ces acteurs, on aura réussi aussi une partie du pari.
Pour reprendre l'idée d'Isabelle, cette idée de guichet unique, est-ce que par exemple il y a des partenariats qui pourraient être envisagés avec BPI France par exemple pour permettre à des startups d'avoir une scalabilité suffisante, prendre une taille nécessaire, réfléchir différemment avec un savoir-faire qui est reconnu depuis le BPI, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont sur les sources de financement, mais aussi d'accompagnement, qui permettent de dire, il y a un guichet unique, c'est Tech France, et donc à partir de là, venez nous voir, et puis après, nous, on s'occupe de vous.
Voilà, ça fait partie de l'offre de service, c'est-à-dire de pouvoir diffuser à nos membres des informations auxquelles ils n'ont pas nécessairement accès, soit parce qu'elles sont difficilement compréhensibles, soit parce qu'ils n'ont pas la taille suffisante, soit parce qu'ils sont éloignés de Paris où il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Bon, donc, ça fait partie de notre responsabilité de diffuser ces informations. On a d'ailleurs à ce propos fait 5 propositions au gouvernement au mois de novembre dernier à l'occasion du salon Educatech Educatis. Alors, ces 5 propositions étaient les suivantes. L'observatoire EdTech, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait évoluer l'observatoire EdTech qui existe aujourd'hui comme une cartographie des entreprises, mais comment est-ce qu'on en fait non plus simplement une cartographie, mais un outil. Donc, Tech France a intégré le groupe de travail autour de l'observatoire, qui est porté par Edfab, mais on fait partie en tant qu'acteur de l'écosystème de ceux qui réfléchissent à la façon dont cet observatoire pourrait évoluer. Il y a également une proposition sur des ambassadeurs EdTech, c'est-à-dire comment est-ce qu'on profite peut-être du réseau français à l'étranger, je pense à Business France, je pense au MAE, etc., pour aussi que ou à Campus France, un peu importe, pour qu'on ait à l'étranger, en dehors de nos frontières, soit des relais, soit des partenaires, etc., pour ouvrir d'autres marchés avec une priorité pour ce qui est de l'espace francophone. Notre proposition était celle du chèque EdTech, alors qui concerne essentiellement le secteur scolaire, l'idée étant de rapprocher ou plutôt de faire de l'utilisateur un acheteur. C'est-à-dire que quand vous voulez vendre une solution EdTech à une école, c'est la mairie qui paye, enfin c'est la commune. Or, l'utilisateur, ça va être le professeur. Donc, si je schématise, mais si la commune achète la solution et que le professeur n'en veut pas, il ne se passera rien. Si le professeur veut la solution, mais que la mairie ou la commune ne veut pas la payer, il ne se passera rien non plus. Donc, l'idée, c'est de donner à l'enseignant, alors c'est une idée, encore une fois, c'est pas nous qui pourrons le mettre en place, mais c'est pour montrer qu'il y a des choses possibles à faire. L'idée, c'est de donner à l'enseignant qui jouit de sa liberté pédagogique la possibilité, avec un crédit EdTech, d'acheter la solution qu'il veut, d'acheter une solution d'abord s'il le veut, et ensuite de pouvoir choisir laquelle. Il y a une autre proposition qui est celle du code EdTech. Il y a un vrai sujet sur la réglementation, le RGPD, pour ne pas le citer, mais pas que, qui fait que il y a à la fois des légendes urbaines, et puis des fois on va se cacher derrière un texte qu'on croit avoir bien compris ou qu'on croit exister, tout simplement, pour dire « je ne vais pas acheter, je ne vais pas, etc. » Donc l'idée, c'est aussi de clarifier cette réglementation pour qu'on avance dans un espace de confiance. Voilà, ça s'appelle ce qu'on a appelé le chèque EdTech. Et puis, il y a une dernière chose qui est importante également, c'est le label EdTech qu'on voudrait mettre en place, qui consisterait à valoriser non pas l'offre, alors on va la clarifier bien sûr, mais on ne va pas labelliser des startups EdTech, elles ne le sont pas de fait par leur activité, mais de valoriser la demande. On considère qu'une collectivité, un territoire, une école, une université, voire une entreprise qui fait le pari de l'innovation, qui fait le pari d'avoir recours à des solutions innovantes, elle prend un risque par définition, et que ce risque, il mérite d'être valorisé, d'être reconnu. Donc, on est en train de travailler à monter une commission de labellisation qui ne soit pas une commission EdTech France, hein, qui ne soit pas représentée uniquement par des entrepreneurs, mais je ne crois pas d'ailleurs que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des indépendants, des personnes impartiales, du monde académique, scientifique, professionnel, etc., qui permettrait, selon des critères précis, de labelliser tel acquéreur de solutions EdTech, un peu sur le modèle des villes fleuries. Vous voyez, plus c'est fleuri, plus vous avez de petits pitots sur votre panneau. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi.
Alors, est-ce que ça pourrait rentrer dans le plan que le gouvernement prévoit de mettre en place dans les prochaines années, là, qui va en fait servir à développer la formation pour les quelques millions encore de Français qui ne disposent pas de compétences suffisantes dans le numérique? Donc, pour ça, il prévoit environ une enveloppe de 75 à 100 millions d'euros. Donc, est-ce que ça pourrait rentrer dans ce cadre-là?
J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Le seul truc, c'est qu'on compte souvent beaucoup sur le ministère, l'argent du ministère, etc. Je crois qu'il ne faut pas que ce soit la principale source de financement, parce que si le secteur privé a besoin du secteur public, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Mais pour autant, toutes ces initiatives, évidemment, que si on peut les porter d'une manière ou d'une autre, on sera ravis de les accompagner. Alors, après, il est question là d'éducation au numérique, et non pas d'éducation grâce au numérique. C'est deux sujets qui sont un peu différents, même s'il existe dans EdTech France aussi des écoles de coding, etc. Donc, ça fait partie de l'écosystème de l'EdTech au sens large. Mais éduquer au numérique, au métier de développeur, par exemple, c'est pas la même chose que d'apprendre un métier de professeur d'histoire grâce à des outils numériques. Voilà. Mais dans le sens EdTech, dans son acception la plus large, oui, ça fait partie des sujets. Et c'est précisément un des rôles d'EdTech France, d'être en veille par rapport à tous ces sujets-là, par rapport aux appels à projets qui peuvent émaner des institutions, etc. Encore une fois, notre offre de service va consister à en informer nos membres qui n'ont pas nécessairement accès à ces données, à cette information qui est parfois un peu obscure ou difficile à obtenir.
Justement, pour aller dans ce sens-là, il y a un autre public qui peut être adressé. 78 000 organismes de formation, majoritairement qui n'utilisent pas le numérique. Donc, c'est la partie aide qui aurait besoin de la tech. Est-ce qu'il y a une évangélisation de prévu? Il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à franchir le pas, mais qui ne savent pas comment faire. Est-ce que vous avez prévu de les accompagner, de les aider, vu qu'ils ont une compétence et une légitimité?
Ça fait partie de ce que j'appelle, moi, le temps long. J'ai un temps court qui est de pérenniser l'association, lui donner de la visibilité, développer, créer une offre de service, etc., faire adhérer des partenaires. Et puis, il y a un temps long qui est celui de l'acculturation. L'acculturation au-delà de notre écosystème. C'est-à-dire que nous, on est tous convaincus de l'intérêt de ces solutions. Et moi qui les découvre, qui continue de les découvrir, chaque jour, je suis un peu plus convaincu de leur utilité. Et je trouve dommage que tout le monde ne puisse pas en profiter de la même manière. Parce que selon qu'on est en telle école, telle entreprise ou telle autre, on n'a pas le même accès accès ni aux ressources, ni au contenu, ni à la méthode. Et voilà, ça crée aussi une rupture d'égalité des citoyens, ce qui est un peu problématique dans notre République. Mais je referme cette parenthèse. Donc, un des sujets, c'est précisément celui-ci. C'est d'expliquer comment ça marche, à quoi ça sert, pourquoi, etc. Et donc, il y a cette logique d'accompagnement, elle est nécessaire. Il y a des initiatives déjà qui existent avec lesquelles on va travailler, notamment, je pense à EduVoices, qui anime une association qui anime des micro-communautés un peu partout sur le territoire, de professeurs qui sont intéressés par les innovations pédagogiques, qu'elles soient technologiques ou pas. Hein. On peut avoir des innovations pédagogiques qui ne sont pas technologiques, bien entendu. Et parfois, il y a des solutions technologiques qui ne sont pas très innovantes. Hein. Donc, il faut faire attention avec ce qu'on dit. Mais voilà, ça m'intéresse, cette logique de communauté. Je crois que si on ne peut pas véritablement faire changer les choses par en haut, il faut les faire changer par en bas. Je crois beaucoup au terrain. Et le terrain, dans la formation, ce sont les professeurs, ce sont les formateurs. C'est eux qui, finalement, décideront ou pas s'ils ont recours à un certain nombre de solutions et d'innovations. C'est eux qui peuvent aussi proposer des choses. On a des entrepreneurs qui sont d'anciens formateurs ou enseignants qui, dans leur pratique pédagogique, se sont dit « mais tiens, ça peut être intéressant », puis s'ils bidouillent un peu, ils montent un truc, et puis ça devient une solution et ça devient une entreprise. Et moi, je crois beaucoup à ça, encore une fois. Les profs, c'est un peu comme un troupeau de chats. Hein. Vous ne pouvez pas faire avancer un troupeau de chats. En revanche, si vous convainquez le chat de l'intérêt d'aller là, il va probablement avoir envie d'y aller tout seul. Donc, je crois qu'il faut qu'on accompagne, qu'on aide, qu'on anime des communautés, qu'on crée ce lien du quotidien entre formateurs et entrepreneurs. Je crois beaucoup aussi au rôle de la recherche et de la science, d'une certaine manière. Je crois qu'on a aussi besoin de crédibiliser nos solutions en démontrant qu'elles fonctionnent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un partenariat avec la TIEF, notamment, pour pas citer cette association savante. Mais je crois qu'on a besoin de lier aussi le monde scientifique, de la recherche, en sciences cognitives, par exemple, avec le monde de la tech.
Parce qu'il existe une vraie détresse et un vrai besoin, une urgence. Les organismes de formation sont un peu comme les formateurs. La différence, c'est qu'eux, ils se sont lancés. Donc, ce sont des entrepreneurs.
Oui.
Ces entrepreneurs, donc, ils ont ce sens du retour sur investissement. Il faut qu'ils en vivent. Ce qui n'est pas la même chose d'être dans une structure où, finalement, on est salarié. Donc, il y a cette démarche-là. Aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations qui se dessinent, il y a des interrogations de fond en disant on nous sacrifie sur cet hôtel-là. Il y a de la compétence, il y a de l'appétence aussi sur du numérique. Donc, il y a un potentiel de start-up. L'élément, c'est de se dire peut-être qu'il y a un maillage, et particulièrement en région, où il y a des gens extraordinaires qui sont complètement abandonnés. Et donc, il y a des trous dans la raquette, pour le dire clairement. Il y a de très, très belles initiatives. Je pense à celle de l'INFREP sur Poitiers qui veut créer un incubateur de petits organismes de formation, de façon à leur apprendre à utiliser le numérique et en faire des modèles économiques. Et l'avantage, comme tu le disais, du numérique, c'est que quand on lance un produit qui est bon, évidemment, il y a des produits qui ne sont pas bons, hein, mais quand le produit est bon, il a toute la francophonie derrière, pour peu qu'on soit que francophone, bien sûr, mais ça veut dire qu'en région, il y a des talents qui sont extraordinaires, et ça permet de tisser un lien, et que souvent, il faut des corps intermédiaires qui prennent un peu l'initiative d'évangéliser, le fameux cliché unique, pour justement se dire comment est-ce qu'on retisse. Et il y a une vraie urgence parce que la réglementation France Compétences réinterroge beaucoup sur les modalités que les petites structures auront. Beaucoup de personnes s'inquiètent, personne ne les rassure. Or, la technologie peut être une porte de sortie avec un contenu qui soit, bien sûr, qui est un contenu qui n'est pas forcément technologique, mais utiliser la technologie pour en faire quelque chose. 78 000 organismes de formation, c'est une force de frappe extraordinaire de par le monde.
Alors, la technologie a une limite principale qui s'appelle la batterie. Et mon portable n'en ayant presque plus, en direct, je vais le brancher sur secteur. Voilà.
Comme très bien.
Vous voyez, l'humain et la technologie. Et là, c'est l'humain qui va venir au service de la technologie.
Donc on est dans le faire
pendant quelques secondes.
Donc ça, alors c'est aussi très intéressant. Donc on a dépassé plus de la moitié de l'entretien. Mais c'est intéressant de voir ces corps intermédiaires qui se structurent et donc de pouvoir les rencontrer, de pouvoir adhérer avec eux de façon à pouvoir avoir un espace de veille. Et quand on est une start-up, on a souvent énormément de choses à faire dans le quotidien. La veille n'est pas toujours facile et le fait de créer des veilles collaboratives permet justement d'économiser à la fois du temps et de gagner en talent parce que la somme des veilles donne quelque chose de supplémentaire et ça permet d'avoir plein d'idées auxquelles on n'était pas prévu qu'on n'avait pas prévu dans sa trajectoire. Et donc ça permet effectivement d'avoir quelque chose. Et c'est en ça que je trouve que EdTech France est assez magique. C'est que comme la French EdTech, a su s'imposer dans le monde entier comme une belle référence, à un moment, ce n'est pas de créer une association de plus, mais de créer un tissage, créer une toile qui permette justement de porter un message. Et quand il y aura suffisamment de monde qui seront autour de EdTech France, d'être le garant, parce que comme Rémi, tu le disais, dans le monde entier, on attend la voix de la France et les grands ne jouent pas le rôle. C'est un problème de taille. On voit par exemple que même un grand comme Apple pourrait acheter tout le FFP, qui sont les grandes entreprises, sans s'endetter, et sans vraiment que ça lui coûte très cher. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, et c'est sans parler des Chinois, etc., donc il y a besoin de se restructurer, de créer du lien, des communautés apprenantes ensemble, pour après pouvoir envahir le monde de la couleur qui est celle de la France, de Condorcet. Il y en a une façon particulière, même si l'Inde a une très, très belle couleur, la Chine aussi, et puis les États-Unis aussi. Il me semble que l'Europe aurait matière. Et en Europe, la France, c'est quand même le plus gros marché de la formation professionnelle. Donc, si nous, on ne fait pas le boulot, pour être assez franc, personne ne le fera. Et donc, c'est ce que j'apprécie énormément dans la démarche que tu portes, Rémi, c'est qu'elle est importante nationalement et qu'à un moment, il faut que quelqu'un ait le courage de porter ces sujets.
Mais je te remercie d'abord d'avoir occupé le temps pendant que je... donc, c'est bon, on ne sera pas coupé. Ensuite, j'avais quand même une oreille attentive, donc je te remercie de tout ce que tu as dit, notamment... J'ai entendu le mot magique, bien sûr. Alors, tu parlais de la FFP, on va être partenaire de la FFP, comme du FOD, etc. Donc, l'idée, c'est, comme tu dis, d'être au cœur d'un écosystème qui relie à la fois le monde des entreprises ou des startups, même si je me méfie de ce terme, parce que c'est quoi une startup, c'est jamais qu'une entreprise, le monde institutionnel, le monde des médias, parce qu'encore une fois, il faut que cette voix, elle porte, et puis le monde des associations professionnelles qui représentent elles-mêmes d'autres écosystèmes. Et la formation, c'est évidemment un acteur extrêmement important pour nous. Et puis la formation professionnelle, il faut dire ce que c'est actuellement le marché le plus porteur pour la tech française. Le scolaire est à peine un marché aujourd'hui. Très difficile d'accès, de vraies barrières à l'entrée, des moyens qui sont finalement limités par rapport aux milliers d'apprenants, aux millions pardon, d'apprenants qu'il comporte, mais c'est très difficile. L'enseignement supérieur, c'est un marché d'avenir auquel je crois vraiment, puis c'est là où je viens aussi. Donc je vois qu'il y a une maturité qui est en train d'arriver, mais le marché de la formation continue, la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie, c'est un marché qui est déjà mature. On s'était rencontré, Stéphane, sur le salon de learning technology où la FEN avait un stand, où la FEN était représentée, c'est des centaines d'exposants, c'est des milliers de visiteurs. Les grandes entreprises ont leur digital learning manager. C'est des postes récents, mais c'est des postes qui existent avec des formations aujourd'hui qui se créent. Je crois que le monde des PME, des TPE, a encore un univers à conquérir, mais dans les grandes entreprises, la question, elle est réglée. Enfin, elle est réglée, je veux dire, c'est dans les têtes. Il y a pas, c'est dans les têtes et dans les pratiques. Voilà, donc...
C'est dans les têtes et ça commence à être dans les pratiques. C'est aussi tout l'enjeu de la FEN, c'est de se dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas comment aborder le sujet et donc en fait qui restent très classico-classiques. Et donc il faut évangéliser pour leur montrer qu'il y a des entreprises qui ferment un peu le rôle qu'on peut faire avec les startups, c'est-à-dire montrer un peu ce qui existe, montrer que si les autres l'ont fait, il y a une raison. Ça rassure ceux qui sont en place. Dans certaines entreprises, ce n'est pas du tout la culture de l'innovation, ce sont des fonctions support, donc pas de créativité. Parfois, ce sont les hommes qui sont mal formés à cela, parce que le changement est trop important et qu'ils étaient très bons sur du canal historique, du style financement, etc. Puis d'un seul coup, l'innovation, l'IT, ça marche comment ? Réalité virtuelle, réalité augmentée, ça coûte un bras. J'ai pas beaucoup de moyens. Et donc, une fois qu'on commence à rentrer dans cette façon de faire, on s'aperçoit que finalement, ça peut... coûter très peu, être très bon marché, mais à condition de savoir ce qu'on veut faire et donc de s'être préparé en amont. Et donc, l'évangélisation est très importante dans ces domaines-là.
Je crois beaucoup au retour d'expérience, c'est-à-dire que quand une entreprise vient expliquer à d'autres entreprises ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait, et que ce n'est pas simplement la start-up ou le centre de formation qui vient expliquer, mais qui peut être perçu comme une démarche commerciale, etc. Mais quand c'est l'utilisateur, l'usager, le client qui vient dire « voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi c'est formidable, voilà quelles sont les difficultés auxquelles je me suis rencontré, voilà comment je les ai surmontées, et voilà pourquoi je vous le recommande », ça, c'est un discours qui porte beaucoup. C'est du apprentissage entre les pairs, d'une certaine manière. Mais voilà, ça, c'est un type de discours qui marque.
Voilà, parce qu'on parle beaucoup, en fait, justement, d'entreprise à entreprise, où on s'adresse aux responsables de formation, mais avec la nouvelle réforme qui va arriver, on va être beaucoup plus dans l'individualisation de la formation. Donc, on va devoir toucher chaque individu. Et justement, chaque individu n'a pas forcément ses compétences numériques pour pouvoir approcher cet environnement. Donc, voilà, comment faire en fait dans un écosystème de la formation qui se dessine et qui va être finalement disponible pour tous, mais comment chaque individu va pouvoir s'y retrouver en tant que tel? Là aussi, c'est une question.
Je saisis ça comme une opportunité, d'abord parce que j'ai plutôt tendance à voir dans tout changement une opportunité plutôt qu'un risque, hein. Il faut dépasser la notion de risque, même si je ne suis pas non plus complètement naïf, mais je trouve que cette idée d'individualiser la formation, elle répond à une logique, hein. C'est que c'est l'individu qui se forme et on se forme pour être plus performant dans l'entreprise dans laquelle on est, mais on se forme aussi pour l'après. C'est-à-dire que le temps où on entre dans une entreprise pour en sortir 40 ans plus tard, il est révolu. Et puis les entreprises n'ont pas nécessairement les moyens d'accompagner ensuite la montée en compétences du collaborateur, etc. Et puis moi, je trouve que c'est la responsabilité des entreprises de former leurs collaborateurs à pouvoir aussi quitter l'entreprise avec d'autres compétences, avec... voilà, donc l'idée d'individualiser la formation me semble être essentielle. Peut-être plus encore aujourd'hui qu'hier. Et puis, chacun est mieux placé pour savoir aussi ce qu'il a envie de faire. Moi, j'ai été en position d'accepter ou de refuser des demandes de formation. On les refusait souvent parce qu'on estimait que cette formation ne correspondait pas aux besoins de l'entreprise à un moment donné. Mais du coup, ça frustre le collaborateur, qui perd aussi confiance dans l'entreprise et qui finit finalement par la quitter, peut-être un peu plus vite que prévu. Donc c'est dommage, alors qu'on aurait pu sans doute accompagner des formations qui n'avaient pas un lien direct avec l'emploi du collaborateur et qui lui auraient permis peut-être d'évoluer à l'extérieur, mais peut-être aussi d'évoluer à l'intérieur de l'entreprise parce qu'on aurait identifié de nouveaux besoins, parce que voilà. Et puis on est dans un univers où les choses changent de toute façon très vite. Les rythmes, c'est pas la première révolution, la révolution numérique, hein, il y en a d'autres. Commencer par la révolution industrielle, mais les temps n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se passe en un éclair de temps ce qui se passait avant en plusieurs mois ou en plusieurs années. Donc, c'est les rythmes qui s'accélèrent simplement. Et comme le rythme s'accélère, les carrières aussi changent. En tant qu'ancien directeur d'école, j'ai vu la façon dont les jeunes appréhendent aujourd'hui l'emploi. C'est-à-dire que un jeune diplômé, 3 ans après son diplôme, il y a quelques années, il était resté dans la même entreprise. Aujourd'hui, un jeune diplômé, 3 ans après son diplôme, il a déjà voyagé, si j'ose dire. Il est resté 6 mois là, 9 mois là. Il a monté un projet qui a marché ou qui n'a pas marché. Puis après, il a fait du freelance. Puis après, il est retourné dans une boîte, etc. Donc, il y a un côté un peu on papillonne, on picore. Et tout ça enrichit aussi son profil. Il ne faut pas le voir comme une chose simplement négative, de zapping, etc. Ce n'est pas que ça. Donc, moi, je crois je crois à cette réforme. Je crois qu'elle va dans le bon sens. Mais effectivement, après, ça pose d'autres sujets, hein. Comment est-ce que dans cette forêt de formation, je vais choisir celle qui me correspond mieux. Il y a un vrai sujet d'information, il y a un vrai sujet d'accompagnement, il y a un vrai sujet de choix, il y a un vrai sujet aussi de sérieux, hein, parce que par définition, plus il y a de formateurs, plus il y a de gens sérieux, mais aussi plus il y en a qui ne le sont pas. Donc voilà, il y a aussi toute une logique ici.
Dans cette culture, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, est-ce qu'il est prévu de se rapprocher d'un corps intermédiaire qui a longtemps structuré la territorialisation, que sont les OPCA, de se rapprocher d'eux pour qu'il y ait des synergies possibles?
Alors, c'est prévu, parce que je ne vais pas vous donner mon planning de rendez-vous, mais je vais voir quelqu'un voilà, ça commence par O, P, C, A, etc. Très bientôt, parce que je crois effectivement qu'il faut se rapprocher de ces organismes-là. C'est une évidence
C'est
pour des acteurs majeurs.
les OPCA d'ailleurs qui vont devenir justement les OPCO, hein, les opérateurs de développement des compétences. Et justement, donc c'est en fait les startups vont devenir des outils, hein, vont nous permettre d'avoir des outils pour appréhender encore mieux les aspects de la formation par le numérique d'une manière générale. Mais alors, est-ce qu'on pourrait même imaginer avoir un rapprochement avec par exemple France avec tous les organismes qui vont permettre de mettre en lien entre ces outils et les individus.
Ça me permet, oui, je trouve que ça aurait du sens. Ça, c'est évident, parce que, là, encore une fois, on est dans un toujours même problème, c'est le problème de la rencontre. Il peut y avoir deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre, si elles ne se rencontrent jamais, il ne se passera rien. Donc, on peut avoir des gens qui ont des besoins de formation, des outils qui permettraient de les former. Si à aucun moment les deux ne se rencontrent, il ne se passera rien non plus. Donc, voilà, EdTech France peut, comme on essaie d'être un lien entre le monde du supérieur et le monde des startups, peut être ce lien, cette passerelle, ce pont entre ceux qui forment, ceux qui ont un besoin de formation, et les outils qui permettent de le faire et qui permettent de l'accompagner. Voilà, ça, je crois beaucoup à cette idée de lien, de rapprochement, d'accompagnement, parce que la vraie valeur ajoutée, c'est comme ça qu'on va la créer. Hein. C'est, encore une fois, c'est l'humain, c'est créer une rencontre. Et plus il y a du digital, et plus on a besoin d'humain. Quoi. Et si EdTech France peut avoir ce rôle-là, encore une fois, je crois qu'on aura gagné une grande partie du défi.
D'accord. Il y a juste aussi un autre aspect que Stéphane a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est l'espace européen. Comment, en fait, on a beaucoup parlé de l'EdTech France hein, au niveau national, comment faire aussi avec les interactions au niveau de l'international, mais avec l'Europe, comment on peut se positionner à ce niveau-là, justement?
Alors, l'international, c'est un enjeu majeur pour la EdTech française, pour une raison principale, c'est que le marché français, d'abord, n'est pas extensible, et que parfois, si je pense aux scolaires en particulier, il est même quasiment inaccessible. Donc, on a des entreprises qui, pour certaines d'entre elles, réalisent la totalité de leur chiffre d'affaires à l'étranger. J'ai rencontré des entreprises, des startups qui ont des solutions, par exemple, pour en adaptive learning, pour l'apprentissage du français, qui font 100% de leur chiffre d'affaires en Amérique du Nord. Bon. C'est à la fois remarquable, parce que ça montre la qualité de la EdTech française et cette capacité à exporter. Et en même temps, c'est dramatique, parce que je sais bien que nul n'est prophète en son pays, mais enfin, à ce point-là, c'est quand même à se poser des questions. Donc, il y a un vrai enjeu sur l'international au sens large. Et l'international au sens large, ça peut se réduire d'abord à l'espace
français. Quelle entreprise? Parce que c'est assez rare d'avoir des gens qui aient ce profil-là. En général, ils sont plus franco-français. Et quand je dis français, c'est surtout localisé. Et donc, parce qu'il y a un code particulier. Donc, ceux qui sont à l'extérieur et qui font de très belles choses comme ça, ils ont compris que finalement, le monde était à eux. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. C'était quelle entreprise?
Alors là, en l'occurrence, c'est Lalilo. Ils sont des jeunes qui ont fait leur dernière année de polytechnique à Berkeley, aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on a une génération qui arrive, qui n'était pas la mienne. Stéphane, tu es beaucoup plus jeune que moi, donc ça, c'est différent. Mais des jeunes qui ont, comme ils disent, le mindset international. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont, pendant leurs études, partis à l'étranger, et pour qui aller vendre une solution en Grande-Bretagne ou en Afrique ou ailleurs, ça ne leur fait pas peur. Il y a des barrières qu'on se mettait, nous, des barrières psychologiques, des barrières de langue, des barrières de culture, qu'eux n'ont pas parce qu'ils ont grandi dans un environnement déjà très international, déjà très globalisé, déjà très mondialisé. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle un certain nombre de ces jeunes entreprises arrivent à s'exporter. Voilà. Donc, il y a deux enjeux sur l'international. Il y a évidemment le marché, on en a parlé tout à l'heure, l'univers francophone. Et un des rôles de l'EdTech France peut être aussi celui-ci, hein, de créer des ponts avec d'autres écosystèmes. On est en train de monter quelques jumelages, notamment avec une association au Québec, qui s'appelle EdTech avec un Q, qui fait exactement la même chose que nous, mais au Québec. Et donc, c'est assez sympa d'échanger avec eux. Parce que je crois qu'il y a aussi des solutions qui seront plus facile à déployer dans un espace francophone où voilà, les questions de traduction, pour être très simple, ne se poseront pas de la même manière. On est en train aussi de se rapprocher de l'initiative au Maroc, qui est en train d'émerger, EdTech Maroc. Et puis, il y a un autre écosystème plus proche de nous, qui est l'écosystème européen. C'est sûr que l'Europe, c'est un marché moins évident pour des Américains ou pour des Chinois qu'il ne peut l'être pour des Français, des Suédois, des Danois ou des Britanniques. Bon. Le plus grand événement quasiment mondial autour de la EdTech a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le BET à Londres. Bon. Alors, petite parenthèse, si vous voulez voir le Français, allez au BET, hein, c'est assez extraordinaire. Le pavillon France, si tous les Français viennent, y compris des gens qu'on n'arrive pas à voir en France, on les voit à Londres. Comme ça. Et puis dans un cadre différent, c'est assez sympa. Mais pour dire qu'il se passe des choses en Europe, qu'on essaie nous-mêmes de se rapprocher d'autres filières. Je pense notamment au Danemark, avec qui on a des contacts. Il y a une jeune femme que vous connaissez peut-être, ça s'appelle Svenia Busson, qui est vice-présidente également d'EdTech France, qui a un accélérateur qui s'appelle Learn Space, et qui a également fait un tour du monde de l'EdTech. Elle va repartir d'ailleurs un peu voir ce qui se passe en Afrique. Elle est allée voir tout ce qui se passait, toutes les initiatives en termes d'innovation pédagogique, de solutions innovantes qui étaient proposées dans d'autres pays auxquels on ne pense pas spontanément. Elle n'est pas allée en Chine, aux États-Unis, elle est allée en Scandinavie, elle est allée en Europe de l'Est, etc., en Amérique du Sud, et elle est revenue avec un ouvrage qui permet de montrer que voilà, tout ce qui se fait ailleurs. Mais franchement, je crois que la France n'a pas à rougir de l'offre qu'elle propose. Et
est-ce qu'il y a la vocation à faire EdTech Europe? Parce qu'il y a un vrai levier qui est la Commission européenne, qui oui. Des lois, etc., qui structure des choses, de façon à pouvoir échanger, avoir une vitrine qui soit européenne, et qui fait complètement défaut, qui serait une bonne idée. Est-ce que c'est dans les cartons ou pas du tout ?
Pas encore, parce que pour l'instant, c'est EdTech France, demain, ce sera EdTech Europe, mais non, c'est-à-dire qu'il y a tellement de pistes à creuser que, voilà, on essaie d'avancer dans l'ordre, et c'est vrai que la piste européenne, on ne l'a pas encore véritablement creusé, en tout cas la piste de la Commission européenne, etc., des institutions de l'Union, parce que c'est déjà tellement compliqué avec les institutions franco-françaises qu'on va d'abord essayer de créer un vrai dialogue avec les ministères, etc., de débloquer le marché, notamment du scolaire, mais pas que, avant peut-être d'aller voir ce qui se passe du côté des institutions européennes. Et puis la difficulté, c'est que les marchés sont très différents les uns des autres. Je pense que le marché de la formation continue, il est à peu près le même partout, je dis ça sans connaître dans les détails, mais je pense que les entreprises elles-mêmes sont transnationales. Bon. En revanche, le marché du scolaire est très différent par définition d'un pays à l'autre. Et donc, pour une entreprise française, le marché français est très difficile d'accès, d'où la nécessité de s'exporter. Et la seule vertu qu'on puisse trouver à ça, c'est que c'est difficile pour une entreprise qui n'est pas française d'aller sur ce marché franco-français. Quoi. Voilà. Mais oui, l'espace européen,
Sur les entreprises, et donc, alors, il y a énormément de structures, de fédérations qui seraient très preneuses d'avoir cette façon de faire. Le Royaume-Uni, par exemple, est structuré de façon complètement différente, qui est très centralisée sur des labels, là où l'Allemagne est très régionalisée. Enfin, ce sont des modèles très différents. Et s'il y a des espaces où on peut se rencontrer, et ça peut se faire de façon numérique, dans ces cas-là, je pense que ça peut aider justement à avoir la taille nécessaire pour des startups qui démarrent, donc par définition, qui deviennent scale-up, donc qui progressent. Et donc, l'idée, c'est justement de les aider à progresser dans un univers qu'ils connaissent bien, parce qu'il y a une proximité. Et donc, ça peut être le marche-pied pour après aborder le monde, pour ceux qui en sont capables, bien sûr.
Oui, tout à fait. Voilà, ça fait une collégiale.
On arrive à la fin, peut-être, si tu avais quelque chose à dire pour l'EdTech, pour voir un peu ce que, si on veut, avant de te rencontrer et de savoir un peu ce que ton actualité, quelles sont les prochaines choses sur lesquelles tu as travaillé?
Alors, de manière très simple, il y a un nouveau site internet qui va sortir dans quelques, j'ose pas dire jours, parce que si ça prend 3 semaines, on va dire qu'on sera en retard. Donc, on va dire dans 3 semaines, comme ça, on sera en avance. Donc, un nouveau site internet d'EdTech France qui va sortir, parce que le site internet actuel, c'est celui qui avait été mis en ligne il y a un certain temps, où on va expliquer qui on est, qui sont nos membres, qui sont nos partenaires. Il y aura le logo de la FEN, évidemment. Quelles sont nos missions, quelle est notre feuille de route, etc., nos outils. Donc, tout ça va arriver très vite. Et sur ce site, vous pourrez tout connaître. Vous pouvez déjà aller sur le site actuel et
rentrer. Il y a le manifeste, déjà.
Il y a le manifeste qui est en ligne. Donc, ça vous permettra de savoir comment s'est créé EdTech France. Mais très bientôt, arrivera un nouveau logo même. Enfin, bref, on repart, non pas de zéro, mais voilà, on se recrée une identité. Et il y aura un vrai lancement, si j'ose dire, à ce moment-là. Donc ça, c'est l'actualité la plus immédiate. Je crois qu'on va entendre beaucoup parler d'EdTech France, j'espère, mais de la EdTech. Moi, ce n'est pas EdTech France pour EdTech France, c'est pour faire grandir une filière, parce que je crois vraiment qu'il y a des enjeux qui sont... On ne parle pas de la fintech, tout est tech aujourd'hui, la health tech, la legal tech, la tech, j'attends qu'elle arrive. Bon, je ne suis pas sûr que le terme d'EdTech survive, parce que bon, c'est le mot du moment. Mais ce qui est important, c'est d'avoir conscience que le monde est en train de changer. Je crois que tout le monde le dit, tout le monde le sait, que les métiers de demain ne sont pas les métiers d'aujourd'hui, sont encore moins les métiers d'hier, et que le monde ne peut pas changer entièrement avec un système éducatif et de formation qui resterait figé au 19e siècle. Ça n'a absolument aucun sens. Les apprenants ne sont pas les mêmes, les métiers ne sont pas les mêmes, les choses vont plus vite, et ce n'était pas mieux avant, c'était différent, et je pense que ça peut être beaucoup mieux aujourd'hui. Simplement, il faut changer de posture et se dire qu'on arrête d'avoir peur, on arrête de craindre, on arrête de dire « je suis obligé d'utiliser des innovations », peut simplement se donner des moyens d'avoir envie. Voilà. Je crois qu'il faut avoir un positionnement de conquête, d'envie, de se dire, puisque les choses changent et qu'il y a des outils qui me permettent moi aussi d'évoluer dans ma façon d'apprendre ou dans ma façon de transmettre les connaissances, je fais ce pari-là. Voilà. Et je crois que ce sera une façon d'inverser le cheminement de pensée. Et puis, je crois qu'il va vraiment se passer des choses et que c'est une nécessité. Il y a aussi une question de souveraineté. On parle d'éducation. Parle d'éducation, c'est une des choses les plus importantes. C'est ce qui fera la grandeur d'un pays demain, la façon dont les jeunes sont élevés aujourd'hui. C'est ce qui fait que la société ira mieux, peut-être, si les gens n'ont plus peur de perdre leur travail parce qu'ils ont entendu parler d'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle devient non plus un risque, mais une opportunité de se former différemment et de voir son travail évoluer de manière positive, c'est pas du tout la même compréhension des choses. Si on ne laisse pas une chance à la filière tech française de se développer, demain, ce sont des Chinois, des Américains, des Indiens qui nous fourniront les solutions pour nous former. Parce qu'on ne pourra pas passer à côté. Je ne dis pas que les solutions américaines, indiennes ou chinoises sont mauvaises. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il y a des choses formidables qui se font. Simplement, ce sont des modèles qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. C'est des systèmes de valeurs qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Voilà, il y a des droits, des libertés auxquelles nous sommes très attachés, auxquelles peut-être d'autres sont un peu moins attachés. Donc je crois qu'il faut aussi se projeter, avoir confiance, avoir envie, et puis se dire qu'il y a aussi un enjeu de souveraineté derrière tout ça, et d'éducation et de l'avenir de notre pays. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Si on veut te suivre sur LinkedIn, le site va sortir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe?
Oui, bien sûr, il existe. Alors, on a des réseaux de communication. Évidemment sur Twitter, EdTech France, Rémi Michel, si vous voulez avoir mon activité particulière, évidemment je relais tout ce qui se passe dans l'EdTech en France et dans le monde, parce que EdTech France ne se limite pas à l'EdTech française en termes d'actualité, d'information et de relais. Il y a un LinkedIn, Rémi Michel, ça c'est une évidence, mais il y a un LinkedIn EdTech France que vous pouvez suivre, sur lequel on relaie également toutes nos communications, toutes nos informations. Donc un site internet qui existe et qui va changer, et puis des réseaux sociaux qui existent et qui vont continuer de grandir.
Eh bien, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'aime beaucoup l'approche à la fois militante et à la fois qui travaille sur l'envie. Je crois que c'est vraiment une des clés importantes de la structuration de demain, de faire des choses plutôt que de dénoncer. Donc ça, j'aime beaucoup cette approche à la fois de EdTech France et ton approche particulière, Rémi. Donc merci beaucoup du temps que tu nous as consacré. Si, bien sûr, il y avait des questions qui venaient après avoir entendu l'émission, on relaierait l'information, mais vous avez tous les éléments et on relaiera les liens de façon à ce que vous puissiez le faire directement. Merci beaucoup à tous. Au revoir.
Merci.